Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix du mois d'août, un mercredi d'après tempête, d'après sécheresse, d'après canicule. Bonjour ou bonsoir, ça dépend encore de la lumière du ciel au moment où je vous parle. Et c'est pas la même pour tout le monde. Faire la pluie et le beau temps, de toute façon, ça n'a jamais été notre vocation. Vous dire ce qu'on comprend du ciel, de la terre et de ces terriens, là, en revanche, c'est le but des vraies voix. Objectif affirmé scientifiquement, parce que la gestion de la cité nécessite une initiation, un vécu, une expérience, n'est pas politologue qui veut, surtout lorsqu'il s'assoit place de la République. Par Nicolas Corato, donc, fondateur du comité de réflexion place de la République.
Quel lancement, dites-moi.
Je le voulais.
Merci, Frédéric.
Vous le méritez, Nicolas. Objectif atteint par recentrage, par synthèse des propos des jeunes et des anciens, des républicains et des extrémistes, des représentants de la nation et des acteurs de la société, par David Corsero, élu MoDem dans le Val-d'Oise.
Beau Bonjour, département. Merci pour l'accueil, merci. Très beau département.
Oui. Objectif défendu par l'activation dynamique de l'arsenal judiciaire, par la poigne de fer sous le gant de velours. David Douillet ne l'était pas, Pierre Gentillet non plus, avocat au barreau de Paris. C'est tellement facile, hein, ce jeu de mots.
Habile.
Habile, oui.
Je vous rattrape.
Merci. Allez, nous sommes prêts avec tous les auditeurs de Sud Radio. La consultation dès 17h30 avec un premier débat. Marlène Schiappa a-t-elle raison de naturaliser 17 000 travailleurs étrangers très actifs pendant le confinement? Oui, c'est l'occasion aujourd'hui dans le journal Libération pour Marlène Schiappa de rappeler qu'elle mène cette politique très sociale. Derrière tout cela, évidemment, il y a encore des messages du gouvernement. Un petit pas à gauche qu'on sent vraiment très présent tout au long de ce mois d'août. Vous nous dites donc ce que vous en pensez. Aurore Cachia qui s'occupe de vos relations avec vous, donc les auditeurs de Sud Radio sur les réseaux sociaux, vous a positionné donc cette première question 17h30. On parlera tout au long de la soirée d'économie, de faits divers aussi. Nous reviendrons sur la question des rodéos urbains et profiterons de la présence d'un avocat aussi sur ce plateau pour évoquer le souhait d'attaquer le pouvoir en justice de la part de la maman de la petite Kenya, vous savez, cette fillette accidentée à Cergy-Pontoise au cours d'un rodéo urbain. Nous serons donc sur cette question à partir de 18h30 dans le deuxième débat. Voilà, vous savez presque tout. À la réalisation, c'est Lucille Montier. Merci à Céline Dumas qui nous a aidé à constituer cette émission. Vous allez le voir, ça commence toujours de manière positive. On avait soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. C'est pour moi. Et moi, j'ai décidé au mois d'août de ne faire que systématiquement des coups de gueule.
Les vraies voix Sud Radio.
Et non, évidemment, que des coups de cœur, bien sûr. Chaque soir, je vous le dis. Alors, vous dites, oui, chaque fois, on le sait que tu fais un coup de cœur. Bon, eh bien oui, je fais un coup de cœur. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Jean-Jacques Goldman et ses amis mettent en avant dans cette chanson, « Né en 17 à Leidenstadt », une question fondamentale. Ceux à qui nous faisons la guerre sont-ils tous pourris? On ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, ajoute Goldman. Sous-entendu, on ne s'est jamais vraiment trouvé, nous, en situation de guerre, quand je dis nous, notre génération élargie de Français. Les Russes et les Ukrainiens doivent, eux, se poser la question depuis 6 mois. Eux qui partageaient, dans certains cas, ce qu'un Français et un Belge échangent tout ce mois d'août autour d'une partie de pétanque dans un camping, l'amitié, la langue, la passion. Coup de cœur donc à ces Russes, qu'ils soient exilés ou restés au pays, qui participent à l'élan de solidarité internationale pour les réfugiés ukrainiens. Il y a cette association Russie Liberté qui, depuis 2012, défend les droits de l'homme, un mouvement très actif lors de la tentative d'assassinat de l'opposant politique à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Il supervise depuis l'attaque russe en Ukraine, en février dernier, l'évacuation des Ukrainiens vers l'Ouest, alors que ces réfugiés se retrouvent souvent piégés à la frontière avec la Russie dans ses centres de filtration qui rappellent étrangement les goulags du stalinisme. Russie Liberté se mobilise également sur le terrain humanitaire en organisant des collectes pour les cousins ukrainiens. En Russie, il n'est pas interdit d'aider les Ukrainiens à partir vers l'Ouest, mais certaines représailles ont déjà été recensées. D'ailleurs, de nombreux Russes gardent l'anonymat lorsqu'un journaliste occidental tente de les interroger. Les répressions du Kremlin s'accentuent, l'opposition politique agit, soit en exil, soit dans des réseaux informels, mais jamais librement. La société civile essaye d'exister en Russie. Aurais-je été si violent, si méprisant, si j'avais été militaire sous Vladimir Poutine en 2022 ? Réaction, messieurs, c'est joli ce qu'ils font, et ça existe. Et on l'a oublié, parce que souvent, le discours a été violent contre les Russes.
Écoutez, je pense que quand c'est fait avec la générosité du cœur, c'est toujours bon. Après, voilà, c'est toujours, dans cette période difficile pour les Ukrainiens, c'est une belle main tendue de certains habitants russes de participer à cette opération. On peut que s'en réjouir, je pense que ça, c'est le point principal. Après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est toujours pareil, c'est comment les Ukrainiens vont l'accepter et le digèrent. C'est toujours ça, c'est la vraie question, à mon sens. Voilà. Pour ma part, en tout cas.
Nicolas Corato, c'est clair qu'on peut aussi comprendre. J'ai lu cet article dans Libération. C'est une professeure qui enseigne auprès des Ukrainiens. Elle se pose la question, mais au bout d'un moment, je représente quand même le pays qui les a attaqués. Comment puis-je me positionner ?
Oui, mais on sait qu'il ne faut pas confondre un peuple et ses dirigeants, même si. Manifestement, une partie importante de l'opinion publique russe est plutôt favorable à la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Ça, c'est une autre question. Il n'en reste pas moins qu'il y a en Russie, et on a tendance à les oublier, je trouve que votre coup de cœur est bien placé, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, défenseurs d'ONG, d'associations humanitaires qui continuent à œuvrer soit contre le pouvoir, soit pour effectivement venir en aide aux différents réfugiés impactés par cette guerre. Et il ne faut pas oublier que la société russe, comme n'importe quelle société, n'est pas homogène et qu'elle est aussi composée de mouvements, d'opinions, d'actions qui vont se positionner contre cette guerre, qui vont se positionner pour les droits humains, avant même la guerre, je veux dire. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que la polarisation française sur le régime de M. Poutine, fait un petit peu oublier le soutien que nous devons apporter, que nous avons toujours apporté d'ailleurs traditionnellement, aux défenseurs des droits humains en Russie. Je prends un exemple puisqu'on a un avocat sur le plateau.
Mais et qui va intervenir.
Il y a eu dans les institutions représentant les barreaux en Russie, des mouvements très courageux d'avocats qui ont dénoncé l'entrée en guerre et la violation du droit international par le président Poutine. En prenant des risques, tout comme des journalistes, on a vu cette journaliste qui passait en audience cette semaine, en prenant des risques, y compris pour leur propre existence, leur propre exercice et leur propre intégrité physique, voire même judiciaire. Donc oui, il y a des mouvements dans la société russe qui s'affirment et qui s'affirment en dehors de la mainstream poutinienne que ne cesse de marteler la propagande qui est très très active en Russie.
Pierre Gentillet, vous qui êtes avocat, c'est typiquement le genre des questions qu'on met en avant, c'est-à-dire ne pas confondre le peuple et le pays, par exemple.
Bien sûr, il y a un régime politique et il y a un peuple. Et par définition, le peuple est divers dans ses opinions. Et il me semble que ça le démontre aussi. Et en même temps, il y a une idée qui est assez claire, c'est que les Ukrainiens et les Russes sont quand même des peuples frères, j'ai envie de dire. L'Ukraine, c'est un peu l'équivalent de la Belgique pour la France, si vous voulez. C'est quand même des peuples qui ont un vécu commun. Ils ont combattu ensemble. Je vous rappelle que lors de la Grande Guerre patriotique, Ukrainiens et Russes étaient côte à côte, en tout cas en majorité.
Avant 1990, ils ne faisaient qu'un sous l'URSS.
Avant 1990, ils ne faisaient qu'un. Voilà. Bon. Donc effectivement, ce qui est intéressant de voir, effectivement, c'est qu'il y a une vie des peuples qu'on oublie, une fraternité des peuples qu'on oublie de voir, au-delà des régimes politiques, au-delà des États, au-delà de la guerre, et c'est ça qui est assez formidable, puisque c'est au fond, ce que ça montre, c'est que c'est une guerre fratricide, en fait. C'est une guerre fratricide. Victor Hugo disait, toute guerre entre Européens est une guerre civile. J'ai envie de vous dire, une de plus, quoi, une de plus. Alors maintenant, là où on sort un petit peu des questions associatives, des questions... Le peuple, c'est quand on entre dans la politique et sur les raisons de cette guerre, parce qu'il faut aussi s'interroger sur le déclenchement, si la faute est évidemment directement l'attaque de la Russie sur le territoire ukrainien. Il y a tout un passif qui dure depuis 2014. Il y avait un peuple dans le Donbass
depuis
côté russe qui était bombardé,
de la Crimée, hein,
effectivement, depuis ce qui s'est passé en Crimée. Donc oui, je pense que tout ça est complexe, mais au moins il y a cette note d'espoir et votre coup de cœur, effectivement, je le partage pleinement.
Oui, chapeau à ces gens-là, et surtout, s'il y a un petit message à faire passer, vous, David Corsero, qui êtes élu local, vous le savez, c'est-à-dire que au quotidien, quand on croise quelqu'un sous prétexte qu'il est russe ou je ne sais quoi, on n'imagine pas que parce qu'il est russe, il est pour la guerre.
C'est ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours quand on croise quelqu'un. On n'a pas à avoir d'interprétation sur ses opinions. Après, c'est en discutant avec la personne qu'on se rend compte de ce qu'elle pense, de ce qu'on peut dialoguer. Mais enfin, je pense qu'il n'y a pas d'anti-russe en France comme on a pu l'entendre pendant une.
Je le dis parce que vous, à titre personnel, vous avez été confronté aux anti-quelque chose.
Hein oui, mais ouais. Après, c'était une période où il fallait avoir des restrictions, donc on peut comprendre. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours compris ce qu'était anti-quelque chose. Vous savez, moi, en tant que député, moi, j'ai toujours eu une permanence hyper ouverte. J'ai jamais eu une permanence fermée. Moi, je recevais tous les gens qui nous écrivaient, je répondais à tout le monde. C'est important de prendre du temps pour les autres. Mmh. Et donc... encore plus en période de guerre, c'est important de pouvoir continuer à avoir du dialogue, même si on a des gens qui pensent différemment de nous.
Voilà, très important, derrière cette petite, on va dire, ce petit hommage hein, pour Russie Liberté, donc, il y a cette aptitude pour chacun d'entre nous à essayer de réfléchir un peu plus loin que la seule réaction épidermique. Réaction épidermique, il n'en est pas question dans un instant dans le tour de table, mais ça sera quand même musclé. Vous l'avez entendu avec nos trois vraies voix qui se préparent le tour de table à suivre.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Nous entrons dans le vif du sujet, je vous le rappelle, les vraies voix en ce mercredi sont Nicolas Corato, David Corsero et Pierre Gentillet. N'oubliez pas, 17h30, vous donnez votre avis. Consultation sur le compte Twitter ou Facebook de Sud Radio. La question du débat, Marlène Schiappa a-t-elle eu raison de naturaliser 17 000 travailleurs étrangers très actifs pendant le confinement? Vous dites oui, vous dites non. Nous attendons votre avis, nous en débattrons. Mais maintenant, place au fameux tour de table.
Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea?
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Ah bon?
Ça vous fatigue déjà? Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est?
C'est tout à fait vrai.
Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
Le tour de table.
De l'actualité.
Avec ces jingles si particuliers, réalisés par nos réalisateurs. Voilà. Et ce soir, je vous le rappelle, c'est Lucille Montier qui est avec nous et qui brille à la régie aussi. Le premier tour de table, il est pour David Corsero. David, vous revenez sur une information qu'on a découverte hier. Donc, ça s'est passé avant-hier, une saisie record dans les Hauts-de-Seine. Saisie record de gaz hilarant. Et c'est pas drôle du tout.
Exactement. Dans les Hauts-de-Seine, 15 tonnes de gaz hilarant ont été saisies. Et c'est un sujet sur lequel on a travaillé déjà en 2018. Et on avait légiféré pour faire en sorte que... il y a des conditions d'achat qui soient plus fermes, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu le gaz hilarant, mais c'est la grande tendance aujourd'hui. Il y a une association qui vient de donner des premiers chiffres qui sont assez spectaculaires. Il faut savoir qu'en 2021, il y a eu 500 cas qui ont été amenés à avoir de graves conséquences pour ces jeunes. Mais si on revient en arrière...
Conséquences neurologiques,
exactement,
hein,
exactement.
Avec des problèmes pour marcher normalement,
exactement.
Pour réfléchir. Voilà.
Exactement. Et sauf qu'en 2020, c'était... deux fois inférieur, sauf que si on reprend par rapport aux chiffres de 2019 et 2021, on est 10 fois supérieur. C'est-à-dire qu'il y a une grande avancée. Ce gaz continue à faire des effets, on n'a pas assez protégé. C'est-à-dire que moi, très clairement, je demande au ministre de la Santé de rouvrir la législation sur ce sujet. Il faut faire en sorte que ce produit ne soit plus disponible comme il peut l'être, ou soit plus fermement avec une caution quand on l'achète pour pouvoir ramener la cartouche, pour savoir à qui on le vend. Enfin, il y a quand même
très facile d'accès, hein, on est d'accord.
C'est un outil de la ménagère. Voilà. Si vous faites de la crème chantilly, vous pouvez vous le procurer. Ça vaut 99 euros dans n'importe quel grand magasin. C'est hyper facile. Vous en trouvez des tonnes partout. Si vous êtes dans Paris, dans les rues, il y a des tonnes de petites cartouches métalliques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Vous en trouvez partout. Et donc, il y a aussi un effet de pollution.
Oui. Donc, je vous confirme que sur les routes du Val d'Oise, mes routes d'entraînement de vélo, voilà, on en trouve de temps en temps. C'est incroyable.
Ouais. Et donc, voilà, donc on devrait tirer une petite sonnette d'alarme pour faire en sorte que nos amis législateurs pouvaient s'intéresser un peu plus au sujet. On sait qu'il y a une sénatrice qui travaille sur le sujet, qui va proposer quelque chose, mais je pense que c'est quelque chose qui est amené à revenir sur la table et à revenir dans les grandes voies.
Pierre Gentillet, que faut-il proposer ? Bien, ne serait-ce que de considérer ce produit comme une drogue à part entière ? C'est possible ?
C'est une bonne question. C'est une question de spécialiste, là, en l'occurrence. Si il se trouve que cette substance, est dangereuse, ça c'est le cas, et que surtout, ouais, dans son usage.
C'est le détournement du produit qu'il fait.
Oui, c'est comme la colle, en fait, ça me fait penser un peu.
Voilà,
vous savez, la colle qu'on colle parfois aux enfants. Ouais, bon, je pense qu'on a tous fait ça, d'ailleurs, à un moment, peut-être autour de la table,
quand on avait 4-5 ans. C'est bien que vous le reconnaissiez.
Mais, voilà, mais j'avais pas l'impression d'être un délinquant. Non, mais en fait, qu'il faut voir, et c'est là où le droit doit être concret, et non pas viser comme ça abstraitement les choses. Il faut voir s'il y a un phénomène de société. S'il y a un phénomène de société et que ce phénomène de société pose un sujet, un danger sur la santé publique, bien la santé publique est en droit une des composantes de l'ordre public. En conséquence de quoi, l'État, le législateur aussi, doit intervenir. Donc effectivement, pourquoi pas ? C'est une question de spécialiste, mais s'il y a un sujet, il faut intervenir. S'il y a un sujet de société, bien sûr.
Alors oui, sujet de société dans la mesure où,
quand on fait une saisie record de 15 tonnes, je pense qu'il y a un vrai sujet de société sur le produit. Voilà.
Et David Corsero, vous le dites, à juste titre, c'est un phénomène, alors oui, on peut le dire, un phénomène de mode, beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la pratique, à cette consommation. Alors bon, si on remonte un peu plus loin, Pierre Gentillet, à l'époque, il y a eu les LSD, dans les années 70, qui étaient des drogues hallucinogènes. On a eu alors ce que les jeunes appelaient les planètes là au début des années 2000, fin 90. Il y a toujours eu ça.
Oui, mais ces drogues-là n'étaient pas en vente libre. La vraie question, elle est là. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, c'est un produit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on peut comparer à la colle des années 80-90. Sauf que c'est pas du tout le. On n'est pas sur les mêmes chiffres qui alertent les associations vraiment de consommation. C'est ce qu'elles disent. Elles, aujourd'hui, quand on compare 3 ans en arrière, on est sur des évolutions très graves. Et surtout, ce sont des jeunes de moins de 22 ans qui sont hospitalisés et qui ont des conséquences très, très graves sur lesquelles c'est irréversible. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose sur lequel, une nouvelle fois, je pense que le ministre de la Santé devrait se préoccuper, parce que moi, j'ai une crainte, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui est accessible et qu'on trouve partout, et c'est ça la vraie difficulté, on avait légiféré, ce que je vous ai dit au début, on a légiféré sur le fait qu'on ne peut plus le vendre aux mineurs. Et ça n'a pas été suffisant. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est soit créer un système de caution, peut-être que quand vous venez acheter une cartouche, eh ben, très bien, on prend votre nom, votre identité, et eh ben, vous la ramenez. Et comme ça, on peut identifier la consommation.
Enfin, si je peux me permettre, le mal sera déjà fait aussi, parce qu'il y aura eu consommation.
Sauf que quand on achète ce type de cartouche, on achète une, deux ou trois peut-être, sauf quand on est pâtissier, que c'est son vrai métier. Mais à la maison, je ne pense pas qu'on en consomme des tonnes. Mais quand on a une consommation régulière, je pense que ça peut alerter. Et donc, on a quand même une possibilité de se dire que le vendeur peut aussi refaire remonter certaines informations.
Nicolas Corato.
Mais c'est vrai que comme on est dans une question de détournement, les jeunes, puisque c'est essentiellement ce public qui est visé, n'ont pas l'impression de commettre quoi que ce soit d'illégal en allant acheter ce genre de bonbonnes et en s'amusant. Bon, ce que vous faites aujourd'hui, c'est important, parce qu'au-delà du droit, il y a aussi l'information et la prévention. Et je crois qu'ici, qu'il faut faire passer les messages. Ouais. À ce titre-là, moi, j'envoie un signal assez alarmant à un certain nombre d'animateurs télé ou radio, de certains de vos confrères qui se disent journalistes et qui se sont amusés dans des séquences qui sont devenues très, très virales. Avec du gaz hilarant, qui l'ont mis en scène dans des émissions de télé de manière clownesque.
Justement parce qu'il manquait d'humour.
Oui. De manière clownesque, mais certains peut-être influenceurs sur YouTube. Enfin, il faut faire passer des messages de prévention. Il faudrait déjà que ceux qui ont la voix et peut-être parfois l'influence de ce public jeune arrêtent de faire de ce gaz un élément structurant de je ne sais quelle tendance, de mode. Il y a peut-être certainement plein d'autres manières de s'amuser que d'inhaler ce genre de gaz. Mais il faut que les adultes qui ont la voix et parfois l'oreille des jeunes soient aussi responsables et passent sur cette séquence de prévention.
Pierre Gentillet.
Si je puis me permettre, je pense aussi à quelque chose. Si ce phénomène touche essentiellement les jeunes, on peut avoir aussi une réflexion en amont qui est en fait la responsabilité des parents et la question de l'éducation. Moi, en tant que juriste, je me méfie quand même beaucoup de la tendance du droit à s'ingérer dans tout pour éduquer les citoyens et pour remplacer les parents, voyez-vous, parce que ça, en l'occurrence, si c'est un phénomène, je ne connais pas ce phénomène, enfin, j'en ai entendu parler il y a quelques jours, comme tout le monde, avec cette saisie exceptionnelle, mais il me semble que là, c'est plus le rôle, effectivement, des parents.
Oui, mais
et je m'inquiète
le
beaucoup du droit
qui
s'ingère
adulte.
Dans tout.
Pierre Gentillet, le parent qui a un enfant adulte.
Là, c'est autre chose. Si c'est un phénomène qui touche les adultes, là,
16-22 ans.
Et c'est un phénomène qui est peu connu, y compris des adultes. Je suis d'accord avec vous sur la responsabilité des parents. Autant faut-il aussi que les parents soient au courant des risques de ce type de consommation,
ça,
qui est une consommation
de
festive. On sait que ce qu'au fond, dans les fêtes, nos enfants, nos adolescents, on en connaît 10%, 15%. On fait passer des messages de prévention.
Nous-mêmes, on en a fait, d'ailleurs.
Mais il faut connaître le sujet. Moi, j'ignorais jusqu'à il y a très peu de temps que c'était dangereux, effectivement, parce que j'ai vu énormément de séquences filmées, énormément de séquences à la télé et sur des chaînes. À mon époque, on disait hertzienne. Enfin, sur des chaînes tout à fait publiques, qui mettaient en scène ces bonbonnes de gaz hilarant. Est-ce qu'on pouvait produire comme effet humoristique avec ? Donc, effectivement, je pense qu'il y a un problème de prévention et d'information.
Est-ce qu'une campagne de sensibilisation ne serait pas...
À mon avis, le compromis se trouve plus là-dessus. C'est-à-dire que, vous voyez, regardez, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire... Nous n'étions pas au courant. Moi, je ne suis pas parent, mais si j'étais parent demain, eh bien, effectivement, je serais heureux aujourd'hui d'entendre Sud Radio et d'avoir cette information, ou de voir effectivement à un moment la télévision un spot publicitaire de l'État m'indiquant qu'il s'agit de substances dangereuses et de faire attention à ce que mes enfants font. Donc, je pense que, à mon avis, l'aiguillon il est plus à trouver dans la prévention, dans l'information, que dans la sanction et dans la prohibition, parce que je vous dis, je me méfie de la tendance du droit à s'ingérer dans tout. Ces dernières années, on l'a trop vu, malheureusement.
Mais justement, et c'était l'objet du tour de table de David Corsero, c'est qu'il y a eu cette saisie record. Et donc, bon, effectivement, nous avons décidé d'en parler. Encore une fois, merci David, c'est votre tour de table. D'autres confrères médias ont aussi réagi après cette saisie record. Voilà, il faut espérer que cette saisie record fasse l'effet d'un révélateur, un peu pour tout le monde, pour dire que le jeune qui fait ça, il a l'impression de s'amuser, mais il est surtout en train de sacrément s'abîmer. Le débat de 17h30 qui arrive très très vite, ne l'oubliez pas, vous allez sur le compte Twitter ou Facebook de Sud Radio. Marlène Schiappa a-t-elle eu raison de naturaliser 17 000 travailleurs étrangers très actifs pendant le confinement ? Vous nous donnez votre avis, à tout de suite.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Le premier débat des vraies voix, c'est parti donc avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion politique Place de la République, David Corsero, conseiller municipal et communautaire Modem dans le Val-d'Oise, et Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris. Ils sont tous là mobilisés pour ce premier sujet. Nous vous posons donc la question, Marlène Schiappa a-t-elle eu raison de naturaliser 17 000 travailleurs du Covid-19 ? Elle le remarque-t-elle encore une fois aujourd'hui chez nos confrères de Libération dans une interview croisée avec Alexis Corbière.
Les vraies voix Sud Radio.
Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français.
Ben oui, voilà, c'est dit, c'est chanté. Bon, retraçons en fait l'historique de cette déclaration. La République doit être sociale. C'est ce que dit finalement Marlène Schiappa. Le gouvernement, vous avez pu le constater, drague un peu la gauche en ce mois d'août. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, donc, dit qu'elle l'a proposé et porté la naturalisation de 17 000 travailleurs étrangers qui ont porté le pays à bout de bras durant le premier confinement. Aide-soignants, gardes d'enfants, agents de sécurité, nettoyage, caissier, etc., etc., la fameuse première ligne. Le 9 septembre 2021, le ministère de l'Intérieur annonçait que Marlène Schiappa avait obtenu la naturalisation de 12 000 travailleurs étrangers en première ligne pendant la crise sanitaire. Dispositif exceptionnel d'acquisition de la nationalité française des ressortissants étrangers qui avait été décidé un an plus tôt. en septembre 2020. Les travailleurs de la première ligne ont donc été récompensés et le chiffre de 12 000 est donc même passé à 17 000. Il y a évidemment un choix politique. Vous êtes pour l'instant à 88% à dire non sur la consultation Sud Radio. Elle n'avait pas à naturaliser 17 000 travailleurs du Covid-19. Nous allons en parler avec nos vraies voix. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la stratégie politique d'une telle annonce dans cette interview croisé dans Libération avec Alexis Corbière des LFI. L'expert que nous recevons pour en parler, c'est le politologue Luc Gras. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors je disais en préambule, donc j'ai rappelé évidemment les contours de la question que nous posons à nos auditeurs sur ces naturalisations, mais derrière il y a un contexte quand même qui est très identifiable. La loi sur l'immigration a été repoussée, en tout cas son examen au Sénat. Il y a eu aussi cette proposition d'un membre de la majorité, certes pas reconnu par ses pairs, mais quand même Sacha Houlier, qui souhaite que le droit de vote aux étrangers hors communauté européenne soit mise en place pour les élections municipales. On est dans une tendance, je fais un pas à gauche quand même là.
Alors rien ne vous échappe, cher Dominique.
Moi c'est Frédéric, c'est Frédéric Luc.
Frédéric, pardon, cher Frédéric aussi.
Mais ça m'est arrivé qu'on m'appelle Dominique.
Il y a eu des grands Dominiques. Bon, rien ne vous échappe parce qu'on voit bien que le gouvernement fait un coup à gauche, un coup à droite pour essayer de ratisser large. Mais la question là est beaucoup plus sérieuse que ça. En réalité, on fait de la stratégie politique là où on devrait avoir une politique continue face à des enjeux importants, le Covid, la politique de la santé, etc., etc. Donc ce qui est un petit peu embêtant dans ce positionnement politique, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est du court terme. Qu'il y ait des Français qui soient naturalisés Français parce qu'ils ont rendu service à la nation et parce que surtout ils aiment la France, eh bien oui, mille fois oui. Que par opportunisme politique, en faveur d'une politique très particulière en matière de santé, on naturalise 12 et maintenant 17 000 personnes, c'est déjà beaucoup plus problématique. La réalité, c'est qu'effectivement, c'est une politique de court terme qui vise à faire un petit coup à gauche, d'autant que l'échange entre Mme Schiappa est avec M. Corbière, et qu'on ne voit pas, et on a beau regarder avec attention cette politique, on ne voit pas de ligne directrice dans cette politique.
Réaction autour de la table, alors réaction, mais aussi peut-être question à Luc Gras, Pierre Gentillet.
J'ai pas de question.
Vous n'étiez pas avec nous, merci.
Si, non, j'étais avec vous. Non, mais j'étais avec vous et j'étais surpris. J'étais en train de prendre des notes.
Mais c'est sur, je le vois,
sur ce que je
le là-dessus. Vois.
Non, je suis assidu. Non, c'est juste que j'ai pas d'observation sur ce que fait Luc Gras. Maintenant, moi, je pense qu'il faut quand même. Comment vous dire, 17 000 naturalisations. Je vais dire, mais est-ce qu'on sait combien déjà il y a de naturalisations sur l'année 2021? Voilà. L'année 2021, j'ai regardé, c'est ce que je regardais à l'instant sur le site du ministère, il y a eu 94 000 naturalisés en France en 2021. Mmh. Donc moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux bien qu'on troque les 94 000 contre les 17 000 et si ces gens ont rendu effectivement des services à la France. Alors la question que je me posais aussi, c'est quel type de travailleurs parle-t-on? Parce que des gens qui ont travaillé pendant le Covid, vous savez, il y en a plein.
Oui, alors il y a notamment
si
les
ce sont
agents
des gens
de...
qui ont été exposés à des risques. Là, effectivement, je comprends les choses
agents
de manière un petit peu différente.
Agents de sécurité, garde d'enfants,
aide-soignants, nettoyage,
professionnels de santé.
Donc, si vous voulez, voilà. Mais ensuite, même de toute façon, je pense qu'il faut quand même aussi relier ça au contexte. Nous avons un contexte migratoire qui est chaotique depuis maintenant des décennies et qui s'accélère. Nous avons un rejet massif. Et pas uniquement dans le sondage que vous avez fait sur Sud Radio, là, pour l'instant.
C'est une consultation.
Mais dans les enquêtes d'opinion, les sondages qui sont faits, par exemple, dans les sondages IFOP, qui montraient que 71% des Français sont favorables à une forte réduction de l'immigration. Je rappelle que nous avons 270 000 entrées légales par an, plus 100 000 demandes d'asile. Donc, étant donné le contexte, étant donné la pression migratoire, je pense que, si vous voulez, moi, je suis pour qu'on... limite, c'est 17 000 personnes, et encore pourquoi pas. Mais tout ça, il faut le relier au contexte et au flux massif que nous avons et au rejet de notre population. C'est-à-dire que notre population voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un phénomène démographique qui est en train de bouleverser la France, qui aujourd'hui a une tendance à progressivement un grand remplacement. Il y a encore une étude de l'INSEE qui est parue hier qui montrait qu'on avait à peu près 30 à 40% des 0 à 4 ans qui étaient des personnes issues de l'immigration, qui avaient au moins un parent ou un grand-parent issu de l'immigration. Et et en particulier sur les zones du Maghreb. Donc il y a un changement progressivement de notre situation, de notre peuple, et je pense que ça ne doit pas être décorrélé de ce contexte. Les Français, ils sont opposés, et moi pour ma part, je suis plutôt opposé. Je suis pas pour, je termine, hein, je suis pas pour une immigration zéro. D'ailleurs, personne n'est pour une immigration zéro. Mais par contre, s'il s'agit juste de 10 000 personnes par an, oui, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas dans ces chiffres-là aujourd'hui. Ça va s'additionner à ce qu'on a déjà.
David Corsero, réaction, sachant qu'on est en pénurie de main-d'œuvre aussi. Hein.
Ouais. Alors, moi, j'ai regardé les chiffres. Déjà d'une, je pense qu'il y a un petit souci sur les dossiers. En tout, c'est 17 000 dépôts et c'est 12 000...
Dans un premier temps, voilà. Mais là, aujourd'hui, textuellement,
oui, non,
mais, Marlène Schiappa avance ses 17 000.
Oui, mais, hein. Pour avoir, justement, il faut être très clair. Sauf que pour être naturalisé, normalement, c'est 5 ans. Hmm. Donc là, c'est une procédure accélérée.
Oui, qui avait été lancée en septembre 2020, tout ce que
exactement.
J'ai rappelé.
Hein. Ouais. Ces travailleurs ont répondu présent pour la nation pendant la crise Covid. Moi, je vous le dis, je trouve ça normal que la nation réponde présent. S'ils aiment la France, on n'a aucune raison de ne pas l'autoriser. Moi, je trouve ça normal. Je suis agent de sécurité, plus personne ne veut le faire. Garde d'enfants, c'est très compliqué d'en trouver. Caissière, on ne veut plus. Aujourd'hui, c'est très compliqué aussi. Éboueur, c'est encore plus compliqué. Professionnel de santé, on peut en parler autant que vous voulez. On fait venir des dentistes et de l'Espagne, du Portugal, de plein de pays. C'est aussi très compliqué. On est en manque, on est en pénurie. Quelque chose qu'il faut être très clair. On a beaucoup de systèmes aujourd'hui, que ce soit la sécurité sociale ou la retraite, qui sont des systèmes de solidarité. Si on n'a pas des gens qui cotisent et qui travaillent, tout va s'effondrer. Donc, si c'est par le fait de naturaliser qu'on peut y arriver, moi, ça ne me pose pas de problème, en tout cas.
Luc Gras, on vient d'avoir un échange très intéressant. Pierre Gentillet, David Corsero, avec deux visions différentes. Bon, deux appartenances politiques différentes, hein, on l'a compris. Mais à travers cela, Luc Gras, on voit bien tout l'enjeu politique du débat du moment.
Oui, mais justement, ça a été très bien présenté et par l'un et par l'autre. Dans ce sens où il y a évidemment un problème migratoire dans ce pays. Et c'est pas la migration qui pose problème, c'est l'intégration. Donc il y a un problème. Il faut que les gens qui viennent en France, comme dans tout pays du monde, acceptent les règles de ce pays. Donc effectivement, il y a un problème. C'est mal ressenti par les Français et de plus en plus, comme ça a été tout à fait bien souligné. D'autre part, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus se fermer à l'arrivée de populations qui aiment la France. Donc ça a été redit et je crois que c'est à très bon escient. En réalité, il n'y aurait pas de problème migratoire dans ce pays si on avait le sentiment que les nouveaux arrivants aiment la France, la font passer en premier, avant les confessions, avant les idées politiques, etc. L'idée, c'est de pouvoir s'intégrer à l'histoire de la France. À partir de là, on peut ouvrir le débat. Il n'en demeure pas moins que là, on ne comprend pas bien où on va. On a l'impression qu'on godille un petit peu. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut avoir... Pourquoi pas naturaliser des personnes qui aiment la France, qui ont envie de s'intégrer, surtout sur des métiers qui sont absolument rejetés aujourd'hui. Mais réfléchissons plus loin. Quelle est notre politique migratoire à 5 ans, à 10 ans? Quelle est notre politique vis-à-vis des métiers de service? Et moi, c'est une idée qui me tient à cœur, de dire dans ce pays, au niveau législatif, il faut légiférer dans le sens de distinguer les métiers de service aux personnes, les métiers où il y a une patte humaine, des métiers autres. Parce que dans ce pays, on manque de tout dans les métiers de service aux personnes, les EHPAD, les hôpitaux, l'éducation nationale, etc. Il faut absolument revaloriser ces métiers et que des jeunes qui ont envie de travailler au service de la nation puissent le faire dans ces métiers de manière décente.
Et dans l'annonce contrainte faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la demande de la Première ministre, Elisabeth Borne, de repousser l'examen du projet de loi sur l'immigration qui était prévu en septembre au Sénat, enfin la rentrée en octobre, et de mettre en place un débat, corrobore exactement ce que vous nous dites, Luc Gras. Je le redis, toujours la consultation des auditeurs de Sud Radio, 88% disent non, elle n'a pas eu raison de naturaliser 17 000 travailleurs étrangers. On va, avant de donner la parole à Nicolas Corato, en parler avec un auditeur justement au 0826 300 300. Florian, vous habitez Antony dans la région parisienne. Vous, votre point de vue sur alors peut-être l'annonce de Marlène Schiappa, mais aussi cette décision de naturaliser.
Moi, je trouve ça totalement scandaleux, bien évidemment, parce qu'on fait semblant de parler, si vous voulez, des métiers. Bon, je suis d'accord avec les intervenants, mais le problème qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'être citoyen dans un pays ? Qu'est-ce que c'est qu'être étranger ? Et donc, à partir du moment où vous avez une partie de la gauche, Rebsamen, Schiappa, etc., qui considère que ce serait une inégalité sociale que de ne pas donner le droit de citoyenneté, je pense qu'on va, on dit à peu près n'importe quoi. D'autre part, vos intervenants ont très bien posé le problème sur l'intégration voire l'assimilation de ces étrangers. Et est-ce que Marine Schiappa a fait une étude ? Est-ce qu'elle leur a demandé que la raison pour laquelle il venait en France, est-ce que c'est pour l'amour de la France, pour l'amour de la liberté, pour l'amour de la laïcité, que sais-je encore ? Est-ce que tout ça, parce que sinon, si travailler, ça donne le droit de citoyenneté, mais on peut accueillir le monde entier pendant qu'on y est.
Et en même temps, travailler, c'est déjà être un petit peu en marche vers l'assimilation. Mais ça montre bien le débat, en tout cas, Florian. Et merci, parce que c'était très concis, donc c'est très bien pour nous, et très clair aussi ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Je vais justement réagir à vos propos, Nicolas Corato.
Non, la question, c'est, elle est éminemment politique, c'est est-ce qu'on va être capable dans les mois prochains d'avoir un débat serein dans ce pays sur la question de l'immigration ? Parce que ce débat, il va falloir l'avoir. Mais il va falloir l'avoir en se respectant les uns les autres et en évitant toute instrumentalisation. Moi, si on part de la théorie fumeuse du grand remplacement parler d'immigration...
Pierre Gentillet vient d'en parler.
Je sais que Pierre Gentillet en parle souvent, d'ailleurs. Moi, je voudrais bien savoir qui est remplacé, qu'est-ce qu'on remplace. Moi, est-ce que je fais partie de ceux qui ont remplacé quelqu'un ? Et j'aimerais bien savoir qui j'ai remplacé et qui me remplacera. Mais tout ça pose la question de qu'est-ce qu'être français ? Et être français, ce n'est pas nécessairement une question de race, ni d'origine, ni d'histoire. C'est aussi une question de valeur, c'est aussi une question de mérite. Et c'est aussi une question parfois de récompense. Il y a des gens qui viennent en France pour plein de raisons, mais il y en a principalement deux. Des gens qui viennent en France pour se réfugier, parce qu'ils sont en danger. Et des gens qui viennent en France pour travailler. Ce sont des droits qui sont reconnus, des droits internationaux qui sont reconnus, et que nous avons reconnus, voire même que nous avons écrits, nous. Robert Badinter, qui est un de vos confrères émérites, dit d'ailleurs que la France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la déclaration des droits de l'homme, ce qui veut tout dire en la matière.
Confrère de Pierre Gentillet, je le précise, un avocat.
Et parfois nos débats le prouvent bien.
Institution très politique.
Sur cette question des 17 000 travailleurs qui ont été naturalisés, d'abord, je crois qu'au moment du Covid, nous avons tous fait l'expérience, collectivement, qu'effectivement, nous étions très dépendants de l'immigration pour faire tourner ce pays. Et que ceux qui jetaient nos poubelles, ceux qui étaient devenus essentiels, ceux qui enterraient nos morts, parce qu'il y a ça aussi, ceux qui les transportaient d'un hôpital jusqu'au funérarium, ceux qui géraient les morgues,
ils sont toujours essentiels
aujourd'hui. Ceux qui changeaient nos parents malades, ben, tous ces gens-là avaient des noms, des consonances et des origines qui n'étaient pas très françaises de souche.
Oui. France de handball, Fernandez, Karabatic,
Abalo. Et des histoires individuelles qui aussi faisaient un tout. Et moi d'ailleurs, j'ai vu beaucoup plus ces gens-là, vous savez, cette France qui se lève trop tôt selon Nicolas Sarkozy, mais en fait quand vous prenez le métro à Paris à 5h30 du mat, c'est pas vraiment la France de Nicolas Sarkozy telle qu'il l'imaginait. C'est une France effectivement très bigarrée qui se lève tôt. Et qui fait des sales boulots. Ça pose un certain nombre de problèmes. Mais cette France-là, elle existe aussi. Et elle a voix au chapitre. Tout comme nous. Et je me souviens qu'au moment du confinement, dans les grandes villes, ceux qui étaient partis, ceux qui ont lâché un peu les choses, ceux qui ont passé
parfois dans la résidence secondaire dans l'île de Ré, par exemple.
C'est peut-être pas ceux qu'on incrimine aujourd'hui, et c'est les autres qui sont restés. Alors, ils ne sont pas restés nécessairement par choix, ils sont restés par contrainte. Ils ont été exposés plus que d'autres au virus. Je vous invite d'ailleurs à lire l'étude de l'INSEE sur le fait que le Covid a été aussi une maladie de pauvres et une maladie d'immigrés dans ce pays, parce que c'est eux qui ont été le plus mis en avant par rapport à cette maladie. Donc oui, il y a un débat. Je finis sur une seule chose, sur l'immigration. Nous venons de signer, la France vient de signer une convention avec la Tunisie, ça n'a rien à voir, pour faire venir 12 000 saisonniers en 3 ans pour faire face à la carence de main-d'œuvre que nous avons dans l'hôtellerie et la restauration. Voilà aussi des débats que nous allons avoir dans les prochaines années, parce que l'économie du plein emploi que nous annonce M. le maire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va plus avoir de main-d'œuvre suffisante pour remplir des emplois non qualifiés.
On va aller chercher où ? Message compris, Nicolas Corato. Messieurs, vous êtes trois à avoir chacun 15 secondes pour conclure. C'est énorme, 15 secondes.
Non, c'est pas possible, pas 15 secondes.
Pierre Gentillet, juste une réaction rapide. Allez, on sait le faire. Vous êtes avocat,
choses,
vous avez du talent.
Deux choses très rapidement. Premièrement, le discours qu'on entend en permanence, effectivement, c'est des métiers difficiles. Bien sûr, c'est des métiers difficiles, mais voyez, vous pensez à l'envers. Moi, justement, je ne dis pas qu'il faut ramener des gens de toute la planète pour faire ces métiers qui sont mal payés. Je dis qu'il faut revaloriser ces métiers. Il faut les payer mieux, il faut baisser la fiscalité. Moi, je pense à l'endroit, je ne passe pas à l'envers. Deuxième chose, et je veux absolument terminer, je ne connais pas la théorie du grand remplacement. En revanche, je ne connais pas la théorie du remplacement. Par contre, je connais le fait du grand remplacement. Et il n'y a aucun problème. Moi, je peux vous emmener dans plein d'endroits en France.
Qu'il s'agisse de Tours. Vous n'allez pas faire un tour.
France Stratégie, l'étude qui est sortie par le ministère de l'Intérieur, a bien démontré l'évolution démographique de ce pays. Et les yeux de tous les Français peuvent les voir.
Un mot de David. C'est la terrible loi.
Ça ne vaut pas plus.
David Corsero, rapidement, s'il vous plaît.
Je pense que ce qui vient de se passer, c'est exactement ce qui doit se passer dans une démocratie. C'est le débat. Les Français l'attendent. Les Français ont fait en sorte que l'Assemblée nationale soit différente, qu'il y ait un débat qui va pouvoir se poser la vraie question sur l'immigration. On l'attend, on verra ce qui va en sortir. Mais moi, j'ai des craintes, et je le dis, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que tout le monde entende que notre système de solidarité, et je l'ai redit, retraite, sécurité sociale, c'est un système de tous ensemble.
Ok. Luc Gras, pour conclure, on a bien compris que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'était d'amener en ce mois d'août à ce genre de questions.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Vous l'entendez, les vraies voix continuent de débattre. On le savait, c'est le débat qui déclenche évidemment les passions, d'où le fait d'avoir repoussé la loi sur l'immigration et en tout cas son examen au Sénat à la rentrée de la part du gouvernement. Alors, vous êtes 87% contre la décision prise par Marlène Schiappa de naturaliser 17 000 travailleurs étrangers très actifs pendant le confinement. Nos vraies voix ont participé, ont donné votre avis et nous étions sur le point d'avoir la conclusion avec Luc Gras, il y a des petites obligations publicitaires. On a fait l'obligation publicitaire. Luc, très rapidement, je vous repose la question. Finalement, le débat qui commence là, c'était le souhait d'Emmanuel Macron, voire même d'Elisabeth Borne.
Oui, et en fait, en conclusion, on peut dire que c'est important d'insister sur le retard. Il y a un retard par rapport à la présentation du texte au Sénat, mais il y a aussi la volonté du gouvernement de renvoyer au 3 octobre, soit la norme constitutionnelle habituelle, la session ordinaire, de renvoyer au 3 octobre le retour de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le gouvernement, probablement, a compris qu'il fallait qu'il prenne le temps pour travailler son dossier. Cela veut dire que probablement, il n'y a pas actuellement de majorité sur ce texte également, hein, sur le texte Darmanin. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit bien dans le débat d'aujourd'hui, on est à l'épicentre des débats en France aujourd'hui, globalement. C'est la question de l'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être français aujourd'hui? Certains pensent que de simplement avoir un emploi en France, c'est déjà bon pour être français. D'autres ont une vision plus culturelle, plus historique de dire pour être français, ça ne suffit pas d'avoir un emploi, encore que c'est déjà pas mal. Il faut aller plus loin, il faut aimer la France. Il faut reconnaître dans l'histoire de France sa propre histoire nationale.
Merci Luc Gras, politologue. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir été aussi concis tout de suite. Allez, détendons-nous, c'est le grand jeu de l'actualité, incontournable.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Trois thèmes que je vous propose, chère vraie voix. Vous choisissez chacun votre questionnaire, vous vous débrouillez, on fait très vite. Débat sur la corrida qui revient dans l'actualité. Il y a un questionnaire sur les animaux sacrés, les femmes afghanes, un appel au secours, on en a parlé hier sur cette antenne. Questionnaire sur les femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Et puis, beaucoup d'inondations dans le sud de la France, les départements du sud inondés. Ça nous fera un petit questionnaire sur les préfectures du sud de la France. Alors, qui choisit quoi? On y va. Nicolas Corato.
La corrida.
Ah. Alors, Nicolas Corato, donc sur les animaux. Nous avons qui? Alors, David, Pierre.
L'Afghanistan.
Pierre, sur les femmes, donc, alors, sur les femmes. Hein, d'accord, très bien. Et donc.
Moi, je prends le dernier.
David, sur les départements. Eh bien, ça tombe bien. On commence avec vous.
Et puis, l'envie de voir si la mer était bonne. Je roulais par hasard entre Nîmes et Narbonne.
Maxime c'est magnifique, ça, c'est la visite, c'est un hommage à Georges Brassens. Alors attention, vous êtes prêts? Cette question, vous répondez rapidement, vous l'avez tout de suite, c'est bon, les autres peuvent rentrer dans le jeu s'il n'a pas répondu. Attention, on y va. Top, donnez-moi la préfecture de l'Aviron.
Je l'ai pas.
Les autres ?
Rodez.
Rodez, c'est pour Nicolas Corato, un point. La préfecture des Hautes-Alpes.
Je ne l'ai pas non plus.
Gap,
ça va.
Gap, oui.
Ouais.
Non.
Non.
Non. Ah non, non. Hautes-Alpes, mince.
C'est Briançon, les amis.
Ah, voilà. Allez, vous donnez les plus rurales. Là.
On revient à vous, David. Ardèche.
As.
Non. Vous ne l'avez pas, les deux autres. Ardèche.
Alors c'est pas Mende. Non, c'est pas Mende.
Non,
Mende, c'est à côté, c'est la Lozère.
Lozère.
Ouais,
Lozère.
C'est juste à côté.
Nicolas, vous ne l'avez pas, c'est Privas. On continue. Ne vous déconcentrez pas, c'est le but du jeu. Vaucluse.
Ah bah c'est Avignon.
Avignon.
Ah bah désolé.
Vous lui avez volé, vous lui avez
j'ai
volé.
J'ai cru qu'on était tous les trois dans le jeu.
Non mais continuez à jouer, c'est bien jouer tous les trois.
Je le donne à Pierre quand même. Allez, bon. Tarn.
Non, je l'ai pas.
Vous l'avez pas les deux autres. Tarn.
Castres.
Non, c'est l'autre.
Non.
Et ben c'est Albi. C'est
à chaque fois là.
Lot-et-Garonne, David.
Qu'est-ce que c'est que ces départements ?
Lot-et-Garonne.
Je l'ai pas, sûr et certain.
Lot-et-Garonne, une fois, deux fois, trois fois. Vous êtes vraiment des parigots.
Je suis parti aux toilettes.
Agen, Lot-et-Garonne. Et enfin, pour terminer, la préfecture du Gers.
Hoche.
C'est pour Pierre. C'est pour Pierre. Pour l'instant, deux points pour Pierre, un point pour Nicolas.
Je suis du nord de la Loire, moi,
David,
je suis pas du sud.
David, ouais. Vous êtes passé totalement à côté. Allez, questionnaire sur les femmes maintenant.
Je voulais prendre la corrida.
Les femmes qui ont marqué l'humanité. Pierre Gentillet, attention, vous êtes prêts? Top, c'est parti. Ancienne première ministre pakistanaise assassinée en 2007.
Benazir Bhutto.
Oui, Benazir Bhutto. Attendez bien quand même qu'il n'ait pas répondu.
Non, mais j'allais le dire.
Il ne l'avait pas. Deuxième question. Femme d'État birmane, prix Nobel de la...
Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi, c'est pour vous. Bien, Pierre, vous prenez l'avantage. Ancienne première ministre israélienne, cofondatrice de l'État d'Israël. Vous ne l'avez pas,
non.
Les autres.
Golda Meir,
Nicolas Corato. David, vous pouvez rentrer en jeu. Je précise. Présidente du Liberia depuis 2005, première femme à gouverner un pays africain, prix Nobel de la paix 2011. Il est plus difficile, celui-ci, à trouver.
Aucune idée.
Une fois, deux fois, trois fois, Hélène Johnson Sirleaf. Franco-polonaise, première femme à recevoir le prix Nobel en 1903. Après, physique,
1903,
chimie...
Mais la Pologne n'était pas indépendante.
Franco-polonaise. D'abord physique, d'abord chimie, prix Nobel.
Marie Curie.
Marie Curie, évidemment, Pierre Gentillet.
Évidemment.
Canonisée par l'Église catholique, albanaise, naturalisée, indienne, prix Nobel de la paix en 1979. Une religieuse.
Ah mais oui, Teresa.
Oui, Mère Teresa. Et enfin, dernière question, figure de la lutte contre la ségrégation raciale, mère du mouvement des droits civiques aux États-Unis.
Ah mais oui, celle qui n'a pas cédé sa place dans le bus.
Vous ne l'avez pas,
Rosa
qui l'a
non.
Rosa Parks, c'est donc pour... Alors,
j'ai un demi-point quand même. Là.
Nicolas Corato. Et on passe au dernier, donc sur les animaux sacrés.
Je suis le loup-garou et toi qui t'en quêtes.
Pour l'instant, c'est très serré. 5 points pour Pierre Gentillet, 4 pour Nicolas Corato. David, il va falloir marquer. Oui. Attention, vous êtes prêts, Nicolas ?
Je suis pas très joueur.
Je suis prêt.
Top, c'est parti. Adopté pour son courage et sa bravoure par les rois de France comme symbole.
Le lion ?
Non. Les rois de France, ils ont choisi un symbole.
Bah, le lys, mais c'est
non,
pas
c'est pas
animal.
Un animal, du coup.
Bah, oui, le coq.
Bah, le coq, oui, Pierre Gentillet, dites-le.
Tellement simple, oui, d'accord, ok.
Le coq, allez, on continue. Animal représenté avec deux têtes sur le drapeau de la Serbie et celui également de l'Albanie. Un aigle, Nicolas Corato. Oui, représenté aux côtés du très populaire dieu Indra en Inde. Quel animal ?
L'éléphant.
Oui, l'éléphant. Nicolas Corato, vous égalisez. Dans la tradition aztèque, divers dieux et déesses prennent sa forme.
Aztèque.
Vous ne l'avez pas, les deux autres. David, c'est le moment.
Un perroquet.
C'est
non.
Pas le perroquet, c'est le serpent.
Ah oui, un serpent à plume.
On revient. Identifié grâce au barbare Guillaume de la Marque dans les Ardennes.
La bête du Gavaudan.
Non.
Le loup-garou ?
Dans les Ardennes.
Dans les Ardennes.
Le lynx. Mais
non, le loup des Ardennes, vous avez déjà entendu ça.
C'est la bête du Gévaudan.
Mais c'est le sanglier des Ardennes. Tout le monde connaît le sanglier des Ardennes.
Ah oui, les Ardennes, moi je connais clairement.
Moi aussi j'étais dans l'Ardenne. J'étais resté à Privas.
On continue. Symbole de la sagesse asiatique. Ils sont trois à se couvrir, trois parties du visage.
Les petits singes.
Oui, le singe Nicolas Corato. Et enfin, pour terminer, cumul du rôle de symbole en Suisse, en Finlande et en Russie. quel animal
cumule du rôle de, Finlande, Suisse et Russie.
Et Russie. Quel animal vous
pas.
Ne l'avez pas les deux autres. Oui, l'ours, c'est Pierre. Et peut-être que là-dessus, ça se joue. Pierre, 2, 4, 6, 7. Nicolas, 2, 4, 6, 7. Match nul.
Il faut une question pour départager. Vous avez pas de dernière question.
Il faut une question pour départager. Eh bien, attention, on y va. Quel est... on va faire quoi? Eh bien, hop, on va faire ça. Quelle est la préfecture de l'Hérault?
Cahors.
Non,
Béziers.
Non, 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 pas du tout.
Enfin,
attendez, j'ai droit à une réponse.
Pas,
messieurs,
l'Hérault, c'est pas Montpellier.
Bah oui, Montpellier, qu'est-ce qui vous arrive? Allez, c'est parti, top, dans un instant, les infos.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Ce soir, les vraies voix sont Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion politique Place de la République, David Corsero, conseiller municipal et communautaire Modem dans le Val d'Oise, et Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris, qui est le grand vainqueur du jeu de l'actualité finalement. On est parti très vite parce qu'on avait beaucoup de retard, mais il est dit que c'est le vainqueur du jeu qui commence maintenant le fameux tour de table.
Pas de panique, nous sommes des professionnels.
C'est tout à fait vrai.
Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne.
Le tour de table.
De l'actualité.
Alors, Pierre Gentillet, vous nous emmenez dans un autre département. Bon, vous aurez peut-être plus de connaissances parce que c'est un peu plus au nord, en Meurthe-et-Moselle peut-être. Hein,
oui,
à Nancy. Ouais. Alors, vous avez remarqué le coût de l'amende de 135 euros pour une voiture qui est à l'arrêt mais dont le moteur n'a pas été coupé.
Exactement, c'est une décision du maire. Et je voulais revenir là-dessus parce que je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que... on a une poussée des questions écologiques depuis une dizaine d'années. Et je trouve, et c'est une critique d'ailleurs qui n'est pas spécialement uniquement de la droite, elle vient aussi de la gauche, que cette économie, cette écologie, pardon, qu'on appelle l'écologie des petits gestes, et qui au fond ici est une écologie punitive, hein, parce que c'est quand même 135 euros d'amende, c'est une écologie qui en fait nous empêche de penser véritablement, à mon sens, et pas uniquement qu'à moi, mais à gauche comme à droite, les vraies solutions. Parce qu'en fait, pensez une chose, 1% des émissions de gaz à effet de serre, c'est la France, 1%. Donc c'est pas nous, en changeant nos comportements en France, qui allons tout changer sur le territoire.
Rien à voir avec l'Inde, sujet, par exemple.
Le vrai sujet, effectivement, à la différence de pays comme la Chine, comme l'Inde, etc. Le vrai sujet, c'est pas l'économie, c'est pas, pardon, l'écologie des petits gestes. Et si vous voulez, moi je réagis parce que ça me fait rire de voir tous les Instagrammeurs, Instagrammeuses qui sont là, qui parlent de penser pour la planète, qui d'ailleurs, bien souvent, c'est fait ce que je dis parce que je fais, et qui vont en vacances, en avion, voyager un peu partout et qui font leurs vidéos promo. En fait, il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça parce qu'en fait, on oublie de penser le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est quoi? Ce sont nos modes de production. Et c'est la mondialisation libérale. C'est le fait que nous allons importer des produits que nous ne fabriquons plus en France. Je vous rappelle qu'en France, début du XXe siècle, on était un des pays rois en Europe dans le textile. Aujourd'hui, on ne fabrique quasiment plus rien dans le textile en France. On importe tout, essentiellement d'Asie et notamment d'Inde. Eh bien, il y a évidemment dans ces trafics, fluviaux, je parle pas de trafic de drogue, une explosion de la pollution. Pensez bien qu'un supertanker pollue à peu près autant que tout le parc automobile français, c'est-à-dire 50 millions d'automobiles. Donc si vous voulez, en fait, moi je pense que cette écologie des petits gestes, elle nous empêche de penser le système libéral qui, par ses modes de production aussi intensive, hein, pensez à ce qu'on fait notamment aux élevages, en particulier les élevages de poulets, les bœufs aussi également, qui contribuent énormément à la pollution. Et ça, curieusement, le gouvernement n'en parle pas et les Instagrammeurs ridicules et
que
tous
vous
ces
n'aimez
donneurs...
pas, on a compris.
Oui, mais je n'aime pas de manière générale. Alors, tous ces
réaction,
donneurs de leçons de morale.
Bon, réaction des deux autres vraies voix. Bon, la politique de la petite pierre à l'édifice aussi, ça marche quand même.
Et c'est... Alors, pour une
Nicolas
fois,
Corato.
Je suis complètement d'accord avec Pierre Gentil.
Ah bah allons-y, c'est enregistré. enregistré.
Ne vous étouffez pas. C'est un artifice de communication politique. La politique des petits pas, ça permet à des gouvernements impécunieux sur le domaine écologique de ne rien faire et de renverser la responsabilité, la charge de la responsabilité qui pèse sur eux, sur la population. Je ne dis pas que ça n'a pas d'effet. Bien sûr que c'est mieux de couper son moteur à l'arrêt plutôt que de le laisser, laisser tourner. Bien sûr
si
que
on
c'est
a
mieux.
L'essence, parce que si on a l'électrique,
mais,
du coup, c'est moins
gênant.
Mais
vous voyez, pendant le
moins,
Covid...
Moins, c'est pareil. Oui, parce qu'on va tirer l'électricité,
pas,
mais moins.
Et moi, ça me gêne parce que ça ne se limite pas au domaine écologique qui pourtant est un domaine effectivement fondamental. Il faut effectivement revoir le système économique de production tel qu'il existe au niveau national et au niveau mondial. Quand j'entends le ministre de l'économie et des finances, mais c'est normal, c'est son rôle, mais il faudrait se demander, se féliciter de la croissance, on se demande jamais ce qu'il y a derrière la croissance. C'est-à-dire que c'est une croissance financière, c'est une croissance économique, mais est-ce que c'est une croissance en termes de mode de vie, en termes de qualité de vie, en termes d'écologie? Ça, on a même pas les indicateurs en fait pour savoir quels objectifs on veut atteindre. On est encore sur des indicateurs qui datent du XXe siècle, d'un système qui est complètement polluant et qui est destructeur pour notre planète. Dernière chose là-dessus, ça ne se limite pas à l'écologie. Sur le Covid, mais sur la crise énergétique de demain, on nous a fait et on va nous faire le même discours. C'est-à-dire, les économies de gaz, ça commence chez vous, alors mettez-vous à 19 degrés, puis faites attention à éteindre les lumières. D'abord, c'est infantilisant au possible, et surtout, oui, effectivement, enfin, ça ne pose pas les vraies questions. Les vraies questions, on le sait, sur la consommation de gaz, c'est d'abord l'industrie en France qui consomme du gaz.
La connaissance, c'est pas être grand ou être jeune, c'est ne pas savoir. Donc, c'est pas infantiliser que de donner un conseil si on ne le sait pas.
C'est infantiliser de me laisser croire.
Dans cette logique-là, on va vous sanctionner si vous prenez une douche de plus de 2 minutes.
C'est infantilisant de me laisser croire que c'est moi qui suis responsable du dérèglement climatique qui est à mettre au passif du système libéral et capitaliste.
David Corcero.
Écoutez, alors, sur l'amende des 135 euros, moi je rappelle que, maître, vous allez pouvoir le confirmer, dans le code de la route, ça existe déjà. Donc, oui. L'amendement fait par ce maire, il est en doublon, puisque vous pouvez déjà être verbalisé. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir cet amendement, puisque dans le code de la route, c'est répréhensible. Donc, aujourd'hui, non, mais je parlais juste de cette partie-là. Ouais, okay. Après, sur la politique du petit pas,
c'est quand même intéressant que chacun, finalement, contribue.
Bon, on l'a bien résumé, la France c'est 1%. Oui. La vraie question, c'est une question de responsabilité individuelle. Si on fait tous des efforts et que les pays d'à côté n'en font pas, ça ne changera pas grand-chose. C'est ça la vraie question. Et après, c'est sa conscience personnelle. Ouais. Sa conscience personnelle.
Mais alors, à force de se regarder tout le monde,
mais justement,
c'est ce que disait Jacques Chirac, la planète brûle et on ne le voit pas. Quoi.
Bah,
c'est
la, ça. Preuve, ouais. La preuve, entre Jacques Chirac l'a dit et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé?
C'est pour ça, faire en sorte qu'il faut que ça change. Et si tout le monde montre l'exemple.
Justement,
s'il faut que ça change, la vraie question, c'est aujourd'hui, dans la logique de se dire, on nous donne des conseils, chacun les utilise, ils n'utilisent pas. Mais la vraie question, c'est que vous l'avez dit, c'est l'industrie, c'est le monde d'aujourd'hui. Vous savez, moi, je critique souvent ces jeunes qui nous donnent des leçons de morale en disant, voilà, c'est facile, mais aujourd'hui, les premiers à faire des Uber Eats sont les jeunes. Les premiers à avoir précarisé plein de métiers, ce sont ces nouvelles générations. Ceux qui commandent des millions de colis pour envoyer un stylo acheté 3 fois moins cher, c'est aussi ça. La vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on doit faire pour avoir quelque chose, une baisse de notre énergie? C'est une conscience personnelle, mais c'est tellement compliqué, puisque la France, on l'a dit, 1%. Oui. C'est nos grands efforts mais ne représentent pas grand-chose.
Ouais. C'est vrai, on va dans un hôtel 4 étoiles, on fait couler l'eau, on ne va pas faire attention, par exemple, aussi.
Bon. Et la clim...
faut vraiment y aller,
très
messieurs.
Court.
C'était très... Ouais, alors, vraiment très court.
Là,
hein.
C'est promis, c'est 15 secondes.
D'accord.
Non, mais je pense qu'il y a deux pistes qu'il faut, en plus de ce que j'ai dit, aborder. Première piste, c'est exploiter au maximum les circuits locaux. Parce que précisément, je vous le disais, c'est l'importation depuis de très lointains pays qui est responsable aussi de cette pollution. Et deuxième chose, il faut absolument poser la question de la démographie. Encore une fois, nous avons une démographie. Nous serons plus de 10 milliards à la fin du siècle.
Ne partez pas sur un débat. C'est
indispensable de penser démographiquement en même temps que de penser écologiquement.
Vous avez un peu abordé le sujet qu'on va avoir dans un instant, l'inquiétude pour la balance commerciale européenne. On est tenté de se dire qu'il faudrait renforcer les projets de souveraineté industrielle européenne pour ne pas dépendre des autres. C'est un peu ce que vous disiez quelque part. On en parle dans un instant.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix ce soir, particulièrement remontées, parce que vous entendez, chers auditeurs, ce qu'il y a à l'antenne, mais hors antenne, c'est aussi costaud. Nicolas Corato, David Corcero, Pierre Gentillet sont là. Je vous le rappelle, à 18h30, vous participez à la consultation, la question du grand débat. La mère de la petite fille accidentée lors du rodéo urbain de Cergy-Pontoise a-t-elle raison d'attaquer l'État en justice? Vous dites oui, vous dites non, c'est à vous maintenant. Et là, nous ouvrons notre grand angle sur l'actualité avec l'inquiétude pour la balance commerciale européenne.
Les vraies voix Sud Radio.
Oui, on est tous les uns contre les autres, mais au bout du compte, comme le dit Morane, on se rend compte qu'on est tout seul au monde. D'après les chiffres publiés par Eurostat, le déficit de l'Union européenne en matière énergétique au premier semestre 2022 atteint les 200 milliards d'euros. Un chiffre impacté par la guerre menée par les Russes en Ukraine, mais le chiffre de la balance commerciale n'arrête pas de se dégrader depuis 18 mois. Il y a donc d'autres raisons, comme les pénuries, le manque de semi-conducteurs qui pénalise le secteur de l'automobile, par exemple. Ou autre problème, notre relation avec la Chine. La Chine qui n'est plus exportateur, qui est plus exportateur qu'importateur de nos produits. Et ça, dans la balance commerciale, c'est terrible. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, avec nous, notre grand témoin, Jean-Luc Gréaud, économiste, ancien expert du MEDEF, auteur de Secret néolibéral, qui est livre sorti en 2020. Merci d'être avec nous, Jean-Luc Gréaud, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, cette balance déficitaire, c'est une tendance qui se confirme, c'est-à-dire oui à l'Ukraine et l'invasion russe, mais pas que. Et là, il va falloir changer peut-être de mode de fonctionnement.
Alors très simplement, une grande partie de cette dégradation est due à la montée du prix des hydrocarbures. Bon, alors cette montée des hydrocarbures est ancienne, mais elle a été aggravée par les sanctions prises contre la Russie. Bon. Mais néanmoins, cette augmentation du prix des importations n'explique pas à elle seule la dégradation qui est en profondeur. Alors pour cette dégradation en profondeur, je crois qu'elle peut s'expliquer essentiellement par le fait que l'Asie continue à exporter de plus en plus, et en particulier la Chine, en direction de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Je souligne au passage la dégradation constante de la balance commerciale américaine depuis maintenant 2 ans. Elle atteint aujourd'hui 1 200 milliards de dollars en rythme annuel. Donc c'est un problème global de déséquilibre entre les pays industriels nouveaux tels que la Chine et d'autre part l'Occident industriel comme l'Amérique du Nord et l'Europe.
Vous dites, alors, Jean-Luc Gréaud, donc qu'en fait l'Union européenne n'est pas la seule, on va dire, victime de cette situation, que ce n'est donc pas, on va dire, un problème de gestion économique de l'Union européenne. On ne peut pas tirer à boulet rouge sur elle, c'est ça ?
Pas spécialement, mais je pense que nous arrivons au bout du processus de mondialisation. Celui-ci est basé sur un pari que nous pourrions garder, nous les Européens, nous les Américains, la haute main sur les produits de haute technologie, tandis que le tiers-monde, en gros, ou la Chine ou l'Asie, se contenterait de produits à basse valeur ajoutée. Ça n'est plus le cas et depuis longtemps. Donc, pendant que nous parlons, la Chine accroît ses exportations sans cesse, tandis que les nôtres tendent à se réduire. Alors là, nous avons une question de fond qui n'est pas posée dans le débat politique, vous avez pu le noter,
ouais.
Et qu'il faudrait poser. Alors la question est de savoir si oui ou non on veut réouvrir le débat de la protection commerciale ou du libre-échange, ce qu'on s'est interdit de faire depuis maintenant 30 ans.
L'idée, c'est renforcer les projets de souveraineté industrielle au niveau européen, déjà, c'est ça. Nos vraies voix, d'ailleurs, dans le sujet précédent, ils sont venus inconsciemment, mais nous y sommes, vous le confirmez.
Oui, mais alors le problème est le suivant, c'est que à Bruxelles, on n'en veut pas, à Washington, on n'en veut pas. Et la question est que nos dirigeants politiques sont pris en main par les financiers, par les grands actionnaires du marché boursier qui s'ingénuent à accroître la valeur pour l'actionnaire, qui implique qu'on réduise constamment les coûts du travail. C'est-à-dire qu'on continue à s'appuyer sur des pays à moindre coût du travail, dont la Chine est le plus brillant exemple.
Une dernière question. Il semble que l'Europe, donc, évidemment, soit déficitaire de par sa balance commerciale, mais que la France, à son niveau, soit encore plus déficitaire que le niveau global de l'Union européenne. Nous sommes mauvais élèves ?
C'est la bérésida. Nous tentons à être le cancre de la zone euro et de l'Union européenne. Et ça est tout à fait troublant, puisque ça fait déjà 30 ans qu'on nous dit que nos gouvernants sont tout à fait avisés, sont tout à fait avertis des problèmes liés à la mondialisation, mais en même temps, ils n'en tirent pas les conséquences. Nous avons donc une question de fond. Je souligne, pour terminer, quand même que ces pays, en particulier d'Asie, mais pas seulement d'Asie, ont aujourd'hui font une politique de substitution de la production nationale ou locale aux importations. Mmh. Et je prends l'exemple de l'Allemagne, dont le solde commercial tend à se dégrader. Tout simplement, elle exporte moins de biens d'équipement, comme elle le faisait auparavant, tout simplement parce que les pays importateurs de biens d'équipement allemands sont en mesure d'y substituer leur propre production.
C'est très clair. Merci, merci pour cet éclairage. Ça a été vraiment parfait. Jean-Luc Gréau, merci pour ces informations. On rebondissait hein, sur une information chez nos confrères de l'Opinion aujourd'hui. On retrouve nos trois vraies voix dans un instant avec le grand débat de 18h30 sur les rodéos urbains. La maman de la petite fille accidentée à Cergy-Pontoise lors d'un rodéo urbain a-t-elle raison d'attaquer l'État en justice? On revient tout de suite.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Vous y allez sur le compte Twitter ou Facebook de Sud Radio. Vous répondez à cette question sur les rodéos urbains. La maman de la petite fille accidentée a-t-elle raison d'attaquer l'État en justice? Autour de la table, nos vraies voix. Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion politique Place de la République. David Corsero, conseiller municipal et communautaire moderne dans le Val d'Oise. Modem, hein, bien sûr. Et puis Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris. La question, nous la posons. Avec un grand témoin, c'est Jean-Luc Gréau, économiste. Excusez-moi, n'importe quoi, je me trompe de ligne. C'est maître Jean-Baptiste Ledal, avocat en droit routier et auteur du guide juridique des engins de déplacement personnel motorisé. Il est avec nous. Bonsoir, maître Jean-Baptiste Ledal.
Bonsoir.
Bon, je m'étais trompé de ligne. Là, en revanche, on ne se trompe pas. C'est bien le débat qui commence.
Les vraies voix Sud Radio.
C'est la vie par le paradis. D'abord à quatre pas, tu tombes, tu te rattrapes. Et puis l'école, on peut pas dire ça t'envahit.
Zazie et sa chanson Rodéo. Le 5 août dernier, Kenya a été gravement blessé, âgé de 10 ans, lors d'un rodéo urbain à Pontoise dans le Val d'Oise. Chez nos confrères de BFM, l'avocat de la mère de Kenya, Raphaël Cabral, déclare ceci, il porte plainte.
Je vais attaquer l'État, on va présenter un recours à la fin du mois d'août, début septembre. Il y a une inaction de l'État et la meilleure preuve de cette inaction de l'État, c'est le fait que ce fléau reviennent quelques jours après ce drame.
Nos confrères de BFM ont également interrogé la maman de la petite Kenya, Béné Rose.
C'est à la police de faire leur travail parce que c'est continué comme ça et tout le temps il y aura des accidents, des victimes.
Maître Jean-Baptiste Ledal, c'est une démarche qui va peut-être tendre à se répéter. Il y a déjà eu un exemple qui est repris par nos confrères du JDD ce week-end à Marseille où une femme a obtenu gain de cause. Certes, après 9 mois de démarche, elle a obtenu 10 000 euros de dédommagement malgré l'appel de l'État. Ça va se multiplier ce genre d'action ?
Oui, peut-être. On va avoir effectivement des victimes qui vont vouloir soit obtenir réparation, soit tout simplement attirer aussi l'attention des pouvoirs publics sur une problématique, des troubles, une insécurité. Donc c'est aussi un moyen, au-delà de la demande d'indemnisation, effectivement on peut le concevoir, mais je pense que c'est aussi un moyen d'attirer l'attention des pouvoirs publics, que ça soit le législateur ou tout simplement les maires des communes concernées sur une problématique particulière. Donc c'est plus, à mon avis, quelque chose qui tient du cri, de l'appel à l'aide à ce niveau-là.
Bon, l'exemple de cette femme à Marseille, hein, repris dans le JDD, 10 000 euros. Bon, elle a attendu certes très longtemps, mais je reprends ses propos. J'appelais systématiquement le 17, donc la police, mais je me faisais engueuler, je cite. Les policiers lui disaient, on n'a pas les moyens. Et puis, elle a eu gain de cause et depuis, les policiers interviennent un peu plus. Justement, à Marseille, on a un appel au 0826 300 300.
300. Sébastien, qui habite à côté de Marseille. Bonsoir Sébastien. Qu'en pensez-vous de cette attaque de cette maman désespérée et qui attaque l'État ?
Bah écoutez, bonsoir déjà à tous.
Bonsoir.
Moi, je suis vraiment de son côté. Je trouve que c'est normal. Aujourd'hui, elle a rien d'autre que de faire ça pour essayer de mettre un geste, d'appeler à l'aide. Et je pense que la multiplication dont vous parliez, peut-être ce genre de gens qui vont porter plainte, ça va peut-être pousser l'État à réfléchir un peu plus sur les mesures qu'ils peuvent mettre en place vis-à-vis de ces rodéos.
On sent un peu quel est le terme ? J'allais dire déprimé, non, désœuvré peut-être aussi face à ces actions. On n'a pas la réponse quand on est au quotidien confronté à ce genre de rodéo.
Complètement, moi je suis complètement d'accord. Moi je suis dans la région marseillaise, aujourd'hui je vois des incivilités assez régulièrement, des gens qui doublent sur les bandes d'arrêt d'urgence lors des accidents, qui en plus engueulent les autres automobilistes parce que ils sont pas d'accord qu'on les réprimande, donc qu'on les klaxonne. On en voit qui s'amusent à faire des rodéos dans les villages, aux alentours de Marseille, dans Marseille même, et derrière on entend des policiers qui nous disent « mais attendez, moi, je peux pas les arrêter. J'ai consigne de pas les arrêter parce que ma responsabilité, c'est ma responsabilité en cas de choc si moi il y a un problème sur la personne.
Merci Sébastien pour votre témoignage qui va d'ailleurs dans le sens des autres auditeurs de Sud Radio, puisque pour l'instant à la consultation vous dites oui, la maman de la petite Kenya a raison d'attaquer l'État en justice. À 89%, vous êtes d'accord. David Carcero, c'est peut-être le début de quelque chose.
Alors écoutez, je ne sais pas, juste avant, en tant qu'élu sur Badoise, j'aimerais avoir une pensée affective pour la petite Kémia avant d'aborder le sujet. Sur la question, ce qui s'est passé à Marseille, effectivement, est-ce que ça pourra faire jurisprudence ? J'attends vraiment l'avis du maître juste à côté.
Jean-Baptiste Lodal.
Parce que je pense que ça peut être intéressant. Je rappelle que celui qui est responsable de l'ordre public, c'est le ministre de l'Intérieur, le préfet. Et le premier magistrat de la ville, c'est le maire. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, d'après ce que j'en ai compris, à Marseille, ce sont des faits répétés qui ont fait que la personne a gagné parce que l'ordre public n'a pas pu être rétabli régulièrement. Et c'est ce qui amène la cause de la condamnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un petit garçon qui passe avec une mobylette, c'est pas pour autant qu'on pourra attaquer l'État. C'est le fait que ce soit répété régulièrement et que l'État n'a pas mis en place tous les moyens possibles pour faire arrêter ce rodéo. Et c'est ça qui entraîne la condamnation. C'est vrai que j'aimerais bien avoir l'avis d'un expert sur ce sujet.
Il vous répond, maître Jean-Baptiste Ledal.
Alors je crois que bon, il faut vraiment distinguer deux choses. Sur un petit peu la réaction des pouvoirs publics par rapport à cette problématique vraiment spécifique des rodéos motorisés. Je pense qu'il faut distinguer d'un côté un petit peu la construction du cadre juridique, hein, ce qui intéresse un peu le juriste, lié à ces problématiques quand même vraiment spécifiques des rodéos motorisés. Vous parliez justement votre auditeur parlait de l'incapacité des forces de l'ordre à poursuivre ces jeunes conducteurs qui vont enfourcher des quads, des motocross. C'est vrai que les forces de l'ordre ne sont pas forcément équipées pour aller les poursuivre. Et puis il y a un risque, hein, quand on se lance dans ce genre de course-poursuite, c'est un risque aussi pour les autres usagers. Donc il y a des problématiques qui sont un peu spécifiques à ces rodéos motorisés. Et ça, je trouve que pour le coup, les pouvoirs publics ne sont pas restés les bras ballants par rapport à ça, parce qu'on a quand même eu un texte dès 2018. C'est-à-dire que bon, on est en 2022. Oh. Aujourd'hui, on a ce phénomène qui est quand même assez présent, pas qu'en France. D'ailleurs, mais dès 2018, finalement, les pouvoirs publics se saisissaient de cette question avec une loi spécifique sur les rodéos motorisés. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, pas mal d'observateurs se sont dit bon, c'est peut-être un petit peu de l'esbrouffe parce que, voilà, peut-être que sur le terrain, on ne peut pas faire grand-chose pour ce qui était à l'époque, quand même, déjà en 2018, un petit phénomène, mais plutôt un épi. Phénomène. Et en 2018, on s'est dit, bon, bah, voilà, c'est quelque chose de politique, on ne peut pas faire quelque chose, vraiment, on ne peut pas donner des moyens, donc on va faire une loi, et puis on va parler des rodéos motorisés. Pour le coup, c'est vrai qu'avec le recul, on se dit que oui, bah, faire une loi spécifique en 2018, le législateur a quand même répondu présent. Mmh. Il n'était pas en retard parce que dès 2018, on a ce texte. Alors, on a un texte avec des sanctions qui sont quand même assez lourdes. Alors, certes, on a toujours moyen de réprimer. On pense tout simplement au refus d'obtempérer. C'est vrai qu'en règle générale, les forces de l'ordre arrivent. Et puis aimerait arrêter hein, ces jeunes. Donc elles vont leur demander bah, arrêtez-vous, on va vous contrôler. Et puis bon, bah, les conducteurs s'enfuient. Donc on a par exemple le délit de mise en danger de la vie d'autrui, on a tout un tas d'infractions qu'on aurait pu utiliser pour lutter contre ces rodéos motorisés, mais un texte spécifique c'est utile. Alors le meilleur des textes va pas tout résoudre sur le terrain, mais même les pouvoirs publics en termes de construction juridique, on a eu bien sûr des affaires, hein, vous parlez de celle de Marseille, on a celle qui est plus récente avec cette fillette, mais les derniers textes en la matière, c'est du mois de juillet 2022, on a un décret. Alors, on construit, c'est des textes qui ne bénéficient pas de l'éclairage qu'a pu avoir la loi de 2018, parce que c'est un petit décret, donc un décret, c'est, voilà, c'est, on va vraiment...
Mais c'est une avancée.
C'est une avancée petite, mais qui est intéressante. Là, on s'intéresse, avec ce décret, aux engins. C'est vrai que les engins motorisés, c'est souvent des motocross, des quads, qui ne sont pas homologués pour aller sur la route.
Bon. Maître là, Jean-Baptiste Le Dalle, bon, là, on plante bien le décor d'un point de vue législatif. J'aimerais quand même qu'on aborde avec notre politologue, quand même Nicolas Corato, la question politique. J'ai l'impression que le gouvernement aujourd'hui répond. Alors là, on a eu des exemples très précis par maître, mais c'est là l'affichage systématique de chiffres en ce moment. Le gouvernement donne des chiffres. Nous avons. Est-ce que c'est une réponse que les gens peuvent entendre, une réponse par chiffres, alors qu'on a un problème qui va beaucoup plus loin?
Bah, la théorie et la politique du chiffre en matière de sécurité, elle ne date pas de Nicolas Sarkozy, mais c'est quand même lui qui l'a systématisé et qui en a fait une doctrine. Et on a bien vu que ça n'a jamais payé politiquement, tout simplement parce qu'il y a une différence majeure entre les chiffres que vous annoncez et la manière d'ailleurs dont vous les récoltez, dont vous les travaillez, et puis la perception et le ressenti des personnes qui vivent ces incivilités, ces actes de délinquance, ces actes parfois criminels, directement sur le terrain. Donc on sait que ça ne suffit pas, le chiffre. Après, quelle est la situation? Moi, je suis, sans parler de ce qui s'est passé à Pontoise ou à Marseille, il y a une question quand même majeure sur l'appel à l'État. Effectivement, l'État est au cœur du sujet, c'est une fonction régalienne, c'est la sécurité. Et l'État ne peut pas tout. Et on le voit bien, l'État, finalement, il a fait beaucoup de choses. Il a fait une loi, et on voit bien que les lois d'exception ou les lois d'émotion, parfois, bah, ça n'apporte pas nécessairement les réponses.
Alors là, qui peut quelque chose en plus de l'État?
Il y a la question des moyens qui sont donnés aux policiers. Il y a aussi une responsabilité un peu collective, c'est-à-dire que
c'est une question d'éducation. Aller faire entendre raison à ceux qui font les rodéos aujourd'hui, on part de loin.
Ceux qui font des rodéos, ils viennent pas de nulle part. Ce sont pas des enfants isolés, ce sont pas des orphelins, ils sont des parents.
Il y a bien longtemps que les parents ont démissionné.
Mais c'est une vraie question, la démission des parents. Et moi, je ne veux pas non plus nécessairement incriminer leurs parents. Parfois, il faut les incriminer, parfois pas. Mais si ces parents ont démissionné, il faut savoir pourquoi ils ont démissionné. Et il faut les remettre à leur place. Si les parents ont démissionné, d'autres acteurs peuvent intervenir. Vous parliez du maire. Il y a des maires qui, dans certaines communes, jouent ce rôle-là.
Les pauvres qui essayent d'intervenir.
Les parents, qui convoquent les gamins.
Et qui en retour ont des actes de violence terribles. Parce que les maires n'en peuvent plus non plus, Nicolas.
Mais à un moment aussi, nous, les adultes, collectivement, on peut aussi faire acte de citoyenneté en faisant en sorte que ne se gangrène pas un certain nombre de territoires. Parce qu'effectivement, ce qu'on regarde dans les rodéos, c'est que c'est très souvent, il y a l'acte isolé du gamin qui a fait n'importe quoi avec son scooter, de ça. Et puis il y a l'acte très organisé de rodéos qui sont organisés à peu près au même moment, au même endroit, de manière systématique, et qui rendent la vie des gens complètement impossible.
On en reparle dans un instant, ce débat est passionnant, à tout de suite.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Le grand débat avec cette question, la maman de la petite fille accidentée au cours d'un rodéo urbain, Sergi Pontoise, a-t-elle raison d'attaquer l'État en justice? Nous avons planté le décor avec notre grand témoin, maître Jean-Baptiste Le Dalle, avocat en droit routier et auteur du guide juridique des engins de déplacement personnel motorisé. Nous avons évoqué la question politique. Vous, les auditeurs, vous avez pris la parole. Pour l'instant, vous dites oui, elle a raison d'attaquer à 89%. abordons maintenant avec nos trois vraies voix et bien sûr notre grand témoin, Maître Jean-Baptiste Le Dalle. Nos trois vraies voix, Nicolas Corato, David Corsero et Pierre Gentillet, abordons la question policière. Et écoutez cette réaction de François Bersani, le porte-parole d'Unité SGP Police, c'était sur LCI.
Il ne nous reste plus que l'élucidation après coup, après les faits. Élucider des affaires de rodéo quand il n'y a pas de plaque bien souvent sur ces motos, quand les individus sont casqués, quand il n'y a pas de vidéoprotection dans le secteur où a eu lieu le rodéo. Nous n'avons pas non plus la possibilité d'utiliser des drones puisque ça a été censuré par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi de sécurité globale. Donc les obstacles sont nombreux pour arriver à traiter ce phénomène de façon efficace.
Bon, parlons-en, nous avons la chance d'avoir deux avocats ce soir, Maître Jean-Baptiste Le Dalle, le grand témoin, et puis notre vraie voix, Pierre Gentillet. Là, ce que disent clairement les policiers, c'est « nous n'avons pas les moyens d'agir ». On parlait tout à l'heure d'action politique, de prise de conscience citoyenne, mais le nerf de la guerre, il est un peu là.
Bah oui, il est sur l'interpellation. Je crois que ça a été bien rappelé effectivement par ce policier. On a des difficultés d'interpellation et c'est justement pour ça d'ailleurs que depuis une semaine, on s'intéresse à ce que font les autres pays voisins. On parlait de la doctrine anglaise, qui est la doctrine dite du tamponnage. Alors il y a une autre doctrine, semble-t-il, qui... Alors je ne sais pas si elle est appliquée sur tout le territoire français, mais c'est la doctrine de la NAS, c'est-à-dire plusieurs... une brigade qui est entièrement dédiée à ça et plusieurs policiers, plusieurs voitures qui encerclent le dit individu. Ensuite, évidemment, il faut quand même mobiliser tous ces effectifs et il y a évidemment un manque d'effectifs, donc ça pose aussi des difficultés. Maintenant, je pense qu'il y a un autre sujet, c'est aussi la lassitude des policiers. Parce qu'il faut quand même en parler, mais ils voient très souvent les mêmes profils. Des gens qu'ils arrêtent, qui passent devant le tribunal et qui, très souvent, par manque de place en prison, peut-être aussi un peu par idéologie, pour tout un tas de raisons, eh bien, ne vont pas en prison, ont ce qu'on appelle des peines alternatives, du sursis et rien du tout. Et vous avez des personnes comme ça, mais je veux dire, il faut entrer dans un tribunal, il faut le voir. Des personnes qui ont 20-30 ans et qui sont condamnés 20-30 fois. Oui, c'est pas juste, ça existe. Ces faits sont légion en France. Donc ça pose une question aussi de l'application des peines.
Maître Jean-Baptiste Le Dalle, est-ce qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire évoluer en termes de législation la possibilité d'agir pour nos policiers ?
Alors, aujourd'hui, bon, là on parlait, c'est un problème de délinquance plus général, hein, la problématique des rodéos motorisés. C'est vrai qu'elle pose un certain nombre de difficultés. Et oui, clairement, sur le terrain, il y a une difficulté liée à l'interpellation. Alors, la réflexion sur les rodéos motorisés, là, on l'a eu il n'y a pas longtemps sur la question de la traçabilité des propriétaires, c'est-à-dire qui est propriétaire de tel ou tel engin, parce que l'enjeu par derrière, c'est quand on passe devant le juge, c'est de confisquer le véhicule et de le détruire. Bon, alors après, il ne faut pas être naïf, hein, la personne, elle peut racheter ou...
Oui, ou revoler.
Oui. Bon, après, c'est surtout des petits engins, des petits motocross, des quads, ce genre de choses. Donc déjà... une des pistes et qui est explorée aujourd'hui, c'est de pouvoir confisquer plus facilement ces engins. On a un truc tout bête, la plupart des gens l'ignorent, mais quand par exemple vous achetez une voiture, vous avez l'obligation d'informer l'administration que vous avez acheté cette voiture. Mmh. On a la même chose pour les engins non homologués. Là, depuis cet été, c'est sous 48 heures que normalement on doit déclarer un engin. Alors, il ne faut pas être naïf, hein. Des délinquants dans les cités ne vont pas se dire « Oh là, j'ai 48 heures pour déclarer l'acquisition, parfois avec de l'argent issu d'un vol, de tel ou tel engin ». Mais ça veut dire que si on n'a pas d'identification, si on n'a pas de déclaration, eh bien on va pouvoir confisquer, détruire ce véhicule. Bon, c'est une petite avancée, mais c'est déjà ça. Après, peut se poser la question de l'immatriculation des engins. Donc c'est une réflexion qu'on a. On a cette réflexion aujourd'hui, il y a un projet de loi qui a été déposé, une proposition de loi qui a été déposée pour l'immatriculation des engins pouvant aller à plus de 15 km/h. Dans le viseur, on a les trottinettes électriques, les EDPM, mais on pourrait avoir cette réflexion sur d'autres engins. Alors le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des engins qui sont utilisés pour les rodéos motorisés, c'est de la motocross, c'est de la pitbike, c'est des petits engins qui sont pas faits pour aller normalement sur la route. Donc ils sont pas immatriculés, ils ont une plaque normalement d'identification, mais la piste, ça pourrait être
petite astuce, effectivement. Il y a éventuellement une porte pour s'engouffrer. Alors là, c'est noté. Réaction de David Corsero, élu local du Val d'Oise. En plus, quand on entend les policiers s'exprimer, on se dit bon, c'est bien les petites astuces législatives, etc., etc. Mais il faut aller plus loin, non ?
Bah, la vraie difficulté, vous l'avez soulevé, il y avait la problématique d'identification du véhicule et de pouvoir retracer à qui il appartient.
Oui, mais après,
la vraie difficulté, c'est l'interpellation.
Oui, alors,
c'est l'interpellation.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça ?
Alors là, ça, c'est la vraie difficulté. Hmm. Et là, on peut dire ce qu'on veut. À partir du moment où vous avez un individu qui refuse d'obtempérer et de s'arrêter,
parce que la dame qui a porté plainte à Marseille, elle dit j'ai demandé aux policiers de venir, ils nous ont dit que les policiers avaient eu ordre de ne pas intervenir pour éviter en cas d'accident des émeutes.
Mais intéressant, ça.
En fait, qui fait la loi alors là?
Mais justement, c'est pour ça que ma question que j'ai soulevée tout à l'heure, qui fait que la condamnation de l'État, c'est parce que l'État n'a pas été capable de démontrer qu'elle a mis tous les moyens pour stopper ce rodéo. Et c'est pour ça que l'État a été condamné. D'où ma question que je posais tout à l'heure, si c'était bien le sens de la condamnation que le tribunal a rendue, ce qui pourrait faire pour jurisprudence, parce que si on ne met pas les moyens nécessaires pour pouvoir le faire, et je pense que il y a une question qu'il faut être posée. Nous, on avait lors de ce fameux texte sur les rodéos, on avait parlé de pouvoir suivre ces motos par des drones. C'était retoqué, mais c'est aussi une solution.
Par le Conseil constitutionnel.
Oui, parce que c'est une solution qui va être de se dire, vu du ciel, on peut plus facilement prendre une décision pour pouvoir agir. Comment on agit, comment on interpelle à ce moment-là, à faisant venir effectivement plus d'unités. Mais bon, le Conseil constitutionnel avait retoqué la solution. Donc,
Nicolas Corato, il y a un moment, il faut agir, non ? Alors vous allez le dire,
le dit depuis le départ, je pense que l'État n'est pas inactif sur le sujet. Et il y a tant de sujets sur lesquels il l'est que là, on peut dire qu'il est actif. C'est un problème de société aussi, je veux dire. Que font ces gamins tout seuls, livrés à eux-mêmes pendant tout l'été ? À n'avoir rien d'autre à faire qu'aller conduire n'importe comment des engins fabriqués n'importe comment, sans casque et en mettant en danger la vie des autres. Qui s'occupe de ces enfants ? Parce que ce sont des enfants.
Ouais. Donc c'est une politique à mettre en place pour...
Mais écoutez, moi je ne peux pas me dire qu'on laisse des dizaines de milliers de gamins tout seuls l'été, sans aucune activité, et qu'ils en soient... Je ne dis pas que c'est nous qui sommes responsables, c'est eux qui sont responsables, c'est eux qui sont délinquants. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui explique que ces gamins n'aient rien d'autre à faire que de faire n'importe quoi?
Et pour conclure, Maître Jean-Baptiste Le Dalle, très très vite, s'il vous plaît, mais aujourd'hui, vous êtes prêts, vous, les avocats, à prendre le pas, finalement, de tous ceux qui vont aller contre l'État en disant on n'est pas en sécurité et c'est votre ressort?
Pourquoi pas, on peut les accompagner. Maintenant, c'est pas aux avocats de faire la loi. On peut la commenter, on peut la combattre, on peut accompagner les victimes aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et puis c'est aussi une question de moyens, c'est aussi une question de sensibilisation, d'éducation. Par exemple, un truc tout bête, mais aujourd'hui, pour avoir son BSR, le brevet de sécurité routière, eh bien il y a des questions aussi sur les risques liés aux rodéos motorisés. Donc c'est un nouveau phénomène. Et peut-être que, aussi dans les années qui viennent, on va avoir cette éducation, cette sensibilisation, et que, aussi peut-être on passera à un autre problème, mais que, voilà, on a aussi ce temps d'adaptation, à la fois pour les pouvoirs publics et puis pour les usagers aussi.
Merci beaucoup à vous. Les auditeurs, en tout cas, vont dans le sens de la maman qui attaque l'État en justice à 89%. Allez, pour terminer, le dernier tour de table, c'est Nicolas Corato qui va nous donner son petit coup de gueule.
Les vraies voix Sud Radio.
Nicolas Corato, allez, je voulais terminer avec vous parce que il y a le casse-tête de l'enfouissement des déchets nucléaires et vous pensez aux générations futures et vous dites attention, stop.
Non, c'est pas moi qui y pense, c'est les chercheurs qui travaillent sur l'enfouissement des déchets nucléaires.
C'est-à-dire
les chercheurs.
Vous pensez beaucoup,
les chercheurs nucléaires.
Aussi.
Et c'est passionnant. Ça ressemble à un roman d'anticipation. C'était dans le Figaro de ce matin. Il y a un petit article, mais je pense que vous pouvez aller chercher. Il y a d'autres sources. La question, c'est des déchets nucléaires, en France, les autorités disent que c'est entre 300 et 500 ans de menace. Ouais. Donc ces déchets nucléaires vont être dangereux au moins jusqu'à 500 ans. Aux États-Unis, pour ceux qui enfouissent au Nouveau-Mexique, ils parlent de 10 000 ans. Bref, vous voyez qu'on n'est plus du tout à l'échelle humaine, voire même plus à l'échelle nécessairement d'une civilisation. Et la question que se posent les chercheurs qui travaillent dans le nucléaire aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on prévient aujourd'hui ceux qui, dans 300 ans, dans 500 ans, peut-être dans 1500 ans, iront se promener sur, au niveau des lieux où on aura enfoui ces déchets nucléaires pour leur dire qu'il y a un danger. Danger que nous leur avons légué, mais que nous ne pourrons peut-être pas être en mesure de leur expliquer. Et donc, il y a plein de linguistes, de sémiologues, de chercheurs qui sont en train de réfléchir à la manière de le faire. Premier exemple, aux États-Unis, on a décidé de planter des piquets qui font très très peur, genre des piquants un peu sur toutes ces zones désertiques.
Voilà.
Réaction des Européens, les chercheurs européens disent non, c'est la dernière chose à faire parce qu'à partir du moment où vous mettez en exergue quelque chose, l'archéologue, dans 400 ans, la première chose qu'il aura envie de faire, c'est de creuser voir ce que veulent signifier. Pareil pour les marqueurs. D'autres imaginent des signes qui seraient des signes finalement universels, c'est-à-dire que notre langue pourrait disparaître, mais on arriverait à donner des signaux qu'il y a un danger. Et puis d'autres, c'est plutôt la version française, sont pour l'oubli. On dit rien.
Ah non, ça c'est
on
pas
dit
possible.
Rien, on ne laisse aucune trace. Et d'une certaine manière, c'est la meilleure manière de se ménager contre la curiosité. Enfin, une dernière chose, c'est
et
que
ça sera la dernière.
Même quand c'est intelligible, parfois on n'en tient pas compte. Exemple, à Fukushima, vous savez qu'il y a des stèles
au
qui
Japon.
Datent du 15e siècle, qui avertissaient les futurs qu'il y avait beaucoup d'inondations et de tsunamis. Ça n'a pas empêché les ingénieurs d'y construire une centrale nucléaire. Donc vraiment, on est peu de choses par rapport à l'échelle du temps.
Et ce coup de gueule ponctue cette émission passionnante où on aurait pu passer 3 heures. Hein. Merci Nicolas Corato, David Corsero, Pierre Gentillet, qui reste quand même le grand vainqueur du jeu de l'info, je le note. Tout de suite...
Je n'ai pas beaucoup de mérite. Hein.
Juste, c'est parti pour l'info maintenant.